L'Europe est admirée de l'extérieur. Elle est en crise, mais elle continue à fonctionner. Et ce mode de gouvernance, où le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de l'importance qui est donnée à la personne humaine, aux groupes intermédiaires, aux collectivités locales, c'est un exemple pour le monde. Peut-être que c'est une sorte d'amorce et d'exemple qui est à suivre sur le plan de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale. Si nous voulons gérer la planète, l'environnement, la santé, la sécurité, il faut que nous le fassions un peu sur le modèle européen. Vous savez, l'Europe est plus belle vue de l'extérieur que de l'intérieur.
Vous croyez que ce cinquantenaire du traité de Rome, cette année 2007 avec la présidence de l'Allemagne, peut relancer le projet européen ?
Mais non seulement qu'elle peut, elle le doit. Là, il faut vraiment une volonté politique, sinon l'Europe sera un peu en panne. Elle continue à fonctionner, mais il faut savoir que les institutions de l'Europe ont été créées pour les 6 premiers membres et que ces institutions ont évolué très peu. C'est uniquement le Parlement qui a acquis un peu plus de pouvoir, tout en n'étant pas un vrai Parlement au sens habituel du mot. C'est toujours le Conseil des ministres qui décide. Pourquoi ? Parce que les États ont effectivement délégué une partie de leur souveraineté nationale, mais pour l'exercer ensemble. C'est vraiment un exemple unique dans l'histoire de l'humanité. L'Europe s'est faite pour la première fois sur les bases pacifiques. Bon, je mets la parenthèse entre parenthèses qui s'est passé dans l'Europe du Sud-Est, donc la guerre en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. L'Europe, là, un peu trahi ses engagements. Mais je laisse de côté cela. Dans le reste du territoire, effectivement, l'Europe a donné exemple au monde. Et elle a le devoir, à mon avis, de continuer.
Donc il y a urgence de relancer ce projet ?
Oui, il y a urgence de relancer le projet européen, mais sur ces nouvelles bases de valeur et puis d'une extension vers le politique, dans le politique, parce que l'Europe doit être présente à la table des grands. Vous savez, nous avons vécu un siècle d'abord de l'Europe et ensuite des États-Unis au XXe siècle. Nous vivons maintenant un siècle de l'Asie. C'est l'Inde, la Chine, peut-être l'Amérique latine un peu, qui sont à la table des grands. Et il faut que l'Europe y soit. Et je pense que là aussi, il y a un intérêt mutuel américain, européen. Bon, peut-être que nous ne partageons pas toutes les valeurs de manière identique avec les Américains, mais il faut que nous soyons des associés et des alliés autour de ces tables où il faudra défendre aussi la dignité humaine, et le partage et la solidarité. L'Europe est l'exemple de la solidarité, c'est ce qu'on oublie souvent.
Quel peut être le rôle de l'Église ou des Églises dans cette relance du projet européen ?
L'Église peut inspirer. L'Église peut inciter, mais les chrétiens laïcs doivent s'engager. Et s'engager dans ce mouvement sur le plan personnel, civique, mais aussi politique. Et ils ont leur contribution à apporter. Sans aucune honte, peut-être même un peu fier de ce que les pères de l'Europe, les pères fondateurs ont fait. Je ne pense pas qu'il faille afficher partout leur appartenance, mais eux, ils ne cachaient pas leur appartenance à la chrétienté occidentale et puis au mouvement de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, je viens d'un pays qui a subi les trois totalitarismes. La génération de mon père se battait contre le fascisme et le nazisme, au nom des valeurs chrétiennes. La mienne se battait contre le communisme, au nom des mêmes valeurs. Donc ce n'est pas neutre pour cette Europe en transition, qui a connu beaucoup de tragédies personnelles et nationales.